Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
20 ans après, où en est le défi de la réconciliation au Rwanda? Comment restaurer un sentiment d'unité nationale? À mes côtés, André Guichawa, témoin expert du bureau du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Sonia Rollet, journaliste au service Afrique des RFI, correspondante d'ailleurs au Rwanda de 2004 à 2006. Émission spéciale, journée spéciale sur l'antenne des RFI. 20 ans après le génocide au Rwanda, 33 9 693 693 60. Et vous nous envoyez également vos commentaires, vos réactions sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement ce qu'a fait Abdoulaye, il est guinéen, il est à Rome. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Vous nous avez envoyé un témoignage très émouvant sur la page Facebook de l'émission. En 1994, à l'époque, vous travailliez pour les Nations Unies et vous êtes arrivé à Kigali le 9 août 1994.
Exactement, c'est-à-dire à peine quelques jours après la fin du génocide. Et c'était vraiment poignant parce que c'est une expérience que je n'avais jamais eue. Pourtant, j'avais été auparavant au Cambodge. Arrivé à l'aéroport, d'abord il n'y avait que ce gros. Gros avion porteur des Nations Unies qui débarquait les premiers arrivants de la mission. C'était les différents chefs de section qui devaient préparer l'arrivée des autres. Surtout où il y avait les.
Ce que vous disiez au standard, c'est que quand vous êtes arrivé à l'aéroport et que vous êtes sorti de l'aéroport, ce qui vous a surtout frappé, c'était le silence. L'impression qu'on n'entendait même pas les oiseaux, c'est ce que vous avez dit.
Oui, exactement. On n'entendait même pas les oiseaux. Et puis les gens qu'on voyait, ils avaient le regard absent et maigre. Et puis dans les rues, on ne voyait que les voitures des ONG avec les drapeaux et les voitures des Nations Unies avec les drapeaux des Nations Unies. Ce qui me frappait aussi, c'est les meufs de chiens gros qu'on voyait sur les routes. On en voyait partout des chiens laissés à l'abandon qui couraient les uns après les autres, mais tous gros. Et puis il y avait les taches de sang qu'on voyait encore. Et la puanteur des corps en putréfaction. Et c'était si émouvant que certains d'entre nous pleuraient.
Ouais. Et on vous sent encore évidemment aujourd'hui très ému par ces souvenirs d'août 1994. Reste avec nous, Abdoulaye. On va vous laisser reprendre un peu le souffle pour continuer ce témoignage. Je voudrais qu'on accueille Israël qui nous appelle d'Abidjan et qui a une question à poser à nos invités. Bonjour Israël.
Bonjour Monsieur Juan Gomez. Bonjour à toute l'équipe de RFI.
Nous vous écoutons avec André Guichawa et Sonia Rollet.
Alors. Lors du génocide rwandais, la France a envoyé des troupes au Rwanda. C'est l'opération turquoise. Alors ma question est de savoir quelle est la mission véritable de l'opération turquoise.
Alors, quel était le rôle des militaires français, Sonia Rollet?
Alors, c'est une mission qui était donc une mission uniquement de militaires français, sous mandat onusien, chapitre 7, avec l'objectif en fait d'intervenir pour arrêter les massacres. Donc, c'est ce que disent encore les responsables de cette opération, le général Lafourcade notamment, qui explique effectivement que cette mission avait uniquement pour vocation une vocation humanitaire, que grâce à cette mission, une population importante qui aurait peut-être fui au Congo est restée au Rwanda. Et donc voilà, et qu'ils ont eux-mêmes sauvé un certain nombre de rescapés, donc des massacres. Ça, c'est le point de vue donc des gens qui font l'opération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a joué un rôle au Rwanda était considéré, notamment par le FPR, la rébellion qui est arrivée au pouvoir en 94, comme un belligérant, puisqu'il y avait des liens très très proches entre l'ancien régime et le pouvoir français, et que donc ce sont les mêmes Français qui donc se retrouvent sous mandat onusien, censé être une force impartiale, et qu'il y a beaucoup de suspicions qui portent là-dessus. Et que, y compris, là, on l'a vu, le président Paul Kagame a accusé les militaires de cette mission, qui est mission présentée comme humanitaire, les a accusés d'actes génocidaires, d'avoir été actifs eux-mêmes directement dans le génocide, complices de génocide également. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'événements sur lesquels il y a beaucoup de questions qui se posent. On a parlé de Bicicero notamment, on a parlé d'autres événements de cette opération. Et puis surtout, l'une des grosses critiques qui avait été faite par les autorités à Kigali, c'était aussi que cette opération permettait finalement aux génocidaires de partir, de s'enfuir, d'aller s'installer au Congo, puisqu'effectivement, énormément de personnes ont fui au Congo et puis se sont installées au Congo. Et parmi elles, bien sûr, évidemment, nécessairement, je dirais presque, des génocidaires.
Ouais. Justement, on a une réaction, un témoignage de Didier qui est à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour Didier.
Oui, bonjour, monsieur.
Et vous souhaitez témoigner puisque vous avez fait partie de ces milliers de personnes qui ont été évacuées par les 2500 soldats français à l'époque, 2500 soldats qui étaient là dans le cadre de l'opération turquoise.
Oui, c'est vrai, ce qui s'est passé dans ce pays, c'était vraiment émouvant. Mais je ne dirais pas que vécu par les militaires de la France qui étaient dans la mission, dans l'opération turquoise. Oui, c'est vrai que le même jour qu'il y a eu cet attentat contre l'agent du feu président Juvenal Habyarimana, ça je n'oublierai jamais, les 6 avril, le matin, ma vieille maman, avec le petit nez pointu, elle avait peur vu que les miliciens s'étaient déjà arrêtés par 2 ou 3 fois chez nous. Mais comme elle était mariée à un Congolais, et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Mais tellement qu'il y avait des tirs qu'elle ne pouvait pas supporter, qu'elle a été obligée, le matin du 6 avril, qu'on a quitté la ville de Kigali pour Goma. Et malheureusement, la même nuit, à 20h, on apprendra que le président rwandais venait d'être assassiné et c'était l'élément déclenché du génocide. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que, oui, c'est vrai, tout être humain est perfectible. Et dire que l'armée française, elle est impliquée, bon, moi je ne sais pas, peut-être, il faut, si on a des preuves, il faut les donner. Mais moi, j'ai dit, parce que j'ai des témoignages vraiment très forts, et j'ai mes grandes sœurs qui vivent actuellement en France, à Montpellier, et qui ont eu la vie sauve, ainsi que mes neveux, mes nièces, qui ont eu la vie sauve grâce à cette intervention de l'armée française. Mais c'est vrai que il peut y avoir des bavures, des erreurs qui ont été commises par cette opération-là, mais quelque part, il y a eu des milliers de gens qui ont été sauvés et pas leur intervention.
André Guichaoua, un commentaire sur le témoignage de Didier.
Oui, bon, ça c'est l'ambiguïté qui a toujours prévalu dans les analyses sur la finalité de l'opération turquoise. Bon, disons, il me semble que ce qu'il faut en retenir, c'est que en France, pendant 4-5 jours, il y a eu des incertitudes sur les objectifs de cette mission. Entre les états-majors de l'armée, de la présidence, entre les politiques, on était en période de cohabitation, il y a eu des optiques qui étaient très différentes, les unes bellicistes, clairement, d'autres qui répondaient à des demandes du gouvernement intérimaire, partition du pays, et finalement, celle qui l'a formellement emporté, c'est l'opération humanitaire. Bon, qu'après des bavures aient eu lieu, ben dans ces cas-là, il faut les documenter, mais ce qui me semble le plus important, c'est qu'on sorte de ces stratégies du soupçon. Parce que quand on voit, je dirais, le niveau de certaines accusations, on est quelquefois ébahi. Il faut qu'on sorte du soupçon et que les gens qui ont des éléments les donnent à la justice.
Sonia Rollet.
Malgré la mission d'enquête qui a eu lieu en France, parce qu'il y a eu une mission d'enquête qui a été dirigée par Paul Quillès, une mission d'enquête parlementaire, finalement, ce qui peut-être aussi fait obstacle à disons, au fait que la vérité émerge de manière totale et globale, c'est peut-être aussi que justement c'était une période de cohabitation, c'est-à-dire que la gauche et la droite étaient au pouvoir, et que d'habitude dans ce genre de cas, quand il y a ce genre d'événement ou problème ou etc. Il y a l'opposition qui joue son rôle et qui va attaquer le gouvernement pour ce qu'il a fait, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'elle soupçonne qui était fait. Et en fait, là, ça n'a pas vraiment été le cas, puisqu'on on a un front quand même commun, et on le voit bien dans ces jours où le président Kagame a accusé la France de génocide, ce qui est vrai qu'il y a une accusation qui est extrêmement grave. On voit un front commun gauche et droite qui se justifient ensemble, parce que c'est vrai que les deux étaient au gouvernement.
Question de Moussa au Tchad. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Juan, et bonjour à tous les héritiers de RFI.
Nous vous écoutons.
Oui, 20 ans après le génocide des Rwandais, pourquoi la France s'engage-t-elle maintenant à juger les génocidaires rwandais sur le sol français depuis 18 ans, et pourquoi maintenant?
Alors, vous faites référence, j'imagine, au procès de Pascal Sibikangwa, premier génocidaire présumé que la France, finalement, accepte de juger. Pourquoi avoir attendu 20 ans, André Guichaoua?
Ben justement, parce que les ambiguïtés françaises n'étaient pas levées. Au lendemain du génocide, la France a servi de point d'attache pour un certain nombre de personnalités du régime génocidaire, dont sur certains pèsent des charges ou des soupçons en tout cas extrêmement lourds. Bon, après, les rapports avec le Rwanda n'ont certainement pas favorisé la possibilité même d'enquête sur le terrain, parce que c'était la France, alors que la Belgique a pu les démarrer assez rapidement.
La Belgique, les Pays-Bas, les pays scandinaves également.
Et les Suisses. Les Suisses ont été les premiers, en 1995, à engager un procès. Bon, et ensuite, eh bien, il y a eu, quand, disons, l'aval a été donné, c'est-à-dire après le rétablissement des relations diplomatiques, la procédure Bruguière, etc., lorsque le feu vert a été donné, il a fallu un certain nombre d'années pour mettre en place une structure capable de gérer une procédure judiciaire à la française.
Bon. Ouais. Question qui nous arrive par courrier électronique. Je l'avais sous les yeux, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de fiches.
Peut-être juste, je peux dire un mot justement sur ces procès. Il y a une vingtaine de procédures quand même qui est en cours. Tout ça vient justement de ce pôle génocide qui a été mis en place, et c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est une politique qui a été continuée par François Hollande. C'est vrai que c'est des instructions longues, et on peut s'attendre à ce que ces procédures en fait durent pendant extrêmement longtemps, puisqu'on voit que ça soit au niveau de l'instruction ou de la tenue des procès, 20 procédures, ça pourrait peut-être s'étaler, je pense, André Guichaoua, sur une dizaine d'années. En tout cas, si ces personnes ne sont pas extradées vers le Rwanda, et pour l'instant, la France refuse d'extrader vers le Rwanda.
Marceline, par courrier électronique, nous dit est-ce normal que le TPIR, Tribunal Pénal International pour le Rwanda, n'enquête pas sur les atrocités commises par le FPR, avant, pendant et après le génocide? André Guichaoua.
Bon, je suis directement concerné, effectivement, après autant d'années. Bon, moi, je répondrais de manière très très simple. Hein. J'ai une déclaration là de Louise Arbour que j'ai retrouvée. Elle dit très clairement, ça c'est en 2000, le gouvernement rwandais lisait mon courrier, il savait ce que je faisais. Par conséquent, si j'avais envoyé quelqu'un faire une enquête sur le FPR, il pouvait être tué, je ne l'ai pas fait. Et il y en a une autre de Carla Del Ponte, quelques années après. Nous savions que le service de renseignement du Rwanda avait reçu un équipement de surveillance des États-Unis qui était utilisé pour les appels téléphoniques, le fax et le trafic Internet. Nous suspections aussi les autorités d'avoir infiltré notre réseau informatique et placé des agents parmi les interprètes rwandais et d'autres membres de l'équipe à Kigali.
Carla Del Ponte qui était procureur général
voilà,
du TPIR.
Donc ça, ce sont deux procureurs. Et à mon avis, c'est une réponse qui vaut globalement. Moi-même, j'ai des éléments très précis où des documents en huis clos le soir même étaient à Kigali.
Carla Del Ponte, justement, s'est exprimée juste la semaine dernière, en fait, à un colloque à Paris, et elle expliquait très clairement qu'en fait, elle avait été empêchée. Enfin, elle considère qu'elle a été empêchée de mener ses enquêtes, qu'elle les a demandées plusieurs fois. Il y avait 13 événements sur lesquels elle voulait enquêter sur des crimes dont était suspecté le FPR, et que finalement, elle voulait le faire elle espérait avoir un deuxième mandat pour pouvoir aussi mener ses enquêtes qu'on appelait les enquêtes spéciales. Qu'elle n'a pas pu avoir de deuxième mandat. Elle dit que le Rwanda, évidemment, est responsable, le gouvernement rwandais d'aujourd'hui, donc c'est le FPR qui est arrivé au pouvoir. Les États-Unis qui soutenaient le Rwanda l'ont aussi empêché de mener ses enquêtes, et que finalement, ça a été une décision qui a été entérinée par l'ONU, puisqu'elle n'a pas eu le renouvellement de son mandat en tant que procureur.
C'était en 2003. Il nous reste 5 minutes. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en République démocratique du Congo, nous vous écoutons, et vous souhaitez-vous nous parler de la réconciliation au Rwanda?
Bien sûr, je considère que entretenir la mémoire de l'histoire vis-à-vis du génocide, comme vous le faites à RFI depuis hier, c'est une bonne chose, mais c'est mieux encore de penser à la consolidation de la paix et de la stabilité au Rwanda. De sorte que, au-delà des performances économiques et même de l'amélioration de conditions de vie réalisées par le régime Kagame, il est essentiel de penser à une véritable réconciliation nationale par la promotion de l'état de droit et de la démocratie. Je ne pense pas qu'on peut espérer une stabilité, une paix durable avec des prisonniers politiques, avec une communauté très grande de réfugiés à l'étranger qu'on tue parfois dans des conditions tout à fait déshonorables. On ne peut pas vraiment espérer ne plus se voir reproduire le génocide au Rwanda si on continue à considérer que bon, il y a eu génocide et qu'on peut tout se permettre, que la démocratie, les libertés, donc, tout cela, la réconciliation, ça ne vaut pas de la peine.
Si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que le système politique tel qu'il existe aujourd'hui au Rwanda ne contribue pas à aller jusqu'au bout du processus de réconciliation. Sonia Rollet ?
Alors oui, je pense que là, la critique qui est faite, c'est notamment une critique en termes d'ouverture de l'espace démocratique, de l'espace politique et de droits de l'homme. Et là-dessus, c'est vrai que depuis 20 ans, malheureusement, c'est le pendant du succès ou en tout cas de la reconstruction qui elle est bien manifeste au Rwanda, où on a reconstruit les institutions, on a remonté des administrations, etc. Mais que effectivement, d'un point de vue politique, mais au départ et dans les premières années, ça a été justifié par le FPR, donc la rébellion qui est arrivée au pouvoir, c'était justifié par le fait que le Rwanda n'était pas prêt, qu'on ne pouvait pas ouvrir l'espace politique parce que par crainte de renouvellement des massacres. Et peu à petit à petit, c'est toujours le discours qui est un peu tenu finalement pour dire que c'est pas facile d'ouvrir l'espace politique au Rwanda vu qu'il y a eu un génocide. Mais c'est vrai que 20 ans après, c'est beaucoup plus compliqué à tenir qu'il y a eu une élection en 2010. Où effectivement, à peu près tous les leaders de l'opposition qui sont rentrés ont été accusés de divisionnisme. Mais ça fait quelque temps qu'en fait, on accuse soit les organisations de défense des droits de l'homme, soit les partis politiques d'opposition d'être divisionnistes, que ces personnes-là se retrouvent en prison. C'est ça que la personne qui était visiblement plutôt de l'opposition appelle les prisonniers politiques. Et qu'effectivement, il y a des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme. Il y a des rapports du département d'État américain en termes de droits de l'homme. Il y a des rapports du représentant sur la liberté d'association, qui disent tous qu'il n'y a pas suffisamment d'ouverture de l'espace politique et de respect des droits de l'homme dans ce pays.
Et c'est exactement ce que nous dit, je crois, Stéphane, qui est en Afrique du Sud. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan.
On vous écoute en quelques mots, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission.
Ok, d'accord. Juste pour dire que il n'y aura pas de véritable réconciliation entre les Hutus et les Tutsis. Jusqu'à ce qu'il y ait établissement de la vérité, que les gens puissent se dire en face exactement ce qui s'est passé et qu'il y ait un pardon clair de la part de tous les responsables des crimes qui ont été commis pendant les génocides. Par la vérité, je sous-entends qu'il n'y a pas que les Tutsis qui ont été victimes du génocide, il y a aussi des Hutus modérés qui ont subi des actes meurtriers de la part d'abord des Hutus extrémistes, et après les génocides, les FPR s'est livré à des actes de meurtre à l'endroit de la population Hutu, que ce soit dans le Rwanda ou même au Congo. Donc, je voudrais qu'il y ait un processus véritable de rétablissement de la vérité et qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Et puis, il y a la marginalisation actuelle de la majorité Hutu à la minorité Tutsi qui est au pouvoir.
André Guichaoua, on peut dire que la majorité Hutu est marginalisée aujourd'hui ? La majorité des Hutus sont marginalisés ?
Il est très difficile de le savoir, effectivement, puisque les possibilités d'expression sont quand même les plus réduites dans ce domaine. Ce que l'on sait quand même, c'est que la distribution des revenus est quand même très fortement inégalitaire et n'a jamais été aussi inégalitaire.
Entre les villes et les campagnes notamment, et c'est là où effectivement, peut-être ça se joue aussi. Et puis il y a la campagne, je crois que ce qui aussi fait monter les tensions, alors qu'au Rwanda, normalement, on ne parle pas d'Hutu et Tutsi. C'est pas quelque chose qu'on évoque comme ça, mais que effectivement, il y a depuis un an une politique qui s'appelle Dimonia Rwanda, qui est le fait d'être rwandais, de faire la promotion du fait d'être rwandais, et qu'il y a quelques inquiétudes, notamment exprimées par les États-Unis ou par d'autres, de dire que cette politique marginalise la majorité hutu en leur demandant, d'être d'avouer leurs crimes, même quand ils n'en ont pas commis, puisque ces crimes ont été commis en leur nom.
Merci beaucoup, Sonia Rollet.